France Culture, tout de suite, retrouvez une grande figure de la pensée américaine par Sylvain Bourmeau.
John Dewey. Avoir raison avec John Dewey. Jamais sans doute n'avions-nous eu autant de raisons d'avoir raison avec John Dewey. C'est, je l'espère, la conclusion à laquelle nous pourrons parvenir ensemble à l'issue de cette semaine consacrée sur France Culture à l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, un philosophe américain qui fut en même temps un intellectuel public intervenant régulièrement dans le débat public pendant plus de 70 ans, de la fin du XIXe siècle au mi-temps du suivant. Pourtant, en dépit de traductions et de commentaires de plus en plus nombreux ces 25 dernières années, le nom et l'œuvre de John Dewey restent bien trop méconnus en France. John Dewey, D-E-W-E-Y. Dewey, donc, est né à Burlington, dans le Vermont, en 1859. Il est né l'année de la parution de L'origine des espèces, le maître livre de Charles Darwin. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et il est mort à New York en 1952, à l'âge donc de 92 ans. Dewey est à la fois l'auteur d'une œuvre théorique majeure, l'une de celles qui a participé de la fondation d'un courant philosophique spécifiquement américain, le pragmatisme, mais il est aussi l'auteur d'un très grand nombre d'articles de journaux, de revues, de textes d'intervention politique visant à produire à travers des efforts inlassables ce qu'il appelait une démocratie radicale. Sa conception originale de l'éducation, la controverse à laquelle elle a donné lieu avec Hannah Arendt, nous l'évoquerons mercredi en compagnie de Michel Fabre et d'Alain Kerlan. L'autre grand débat plus célèbre encore, qu'il l'a opposé à Walter Lippmann à propos de l'espace public, il en sera largement question demain avec Mathias Girel. Sa contribution essentielle à l'esthétique, à la philosophie de l'art comme expérience, nous y consacrerons l'émission de jeudi avec Barbara Formis et Olivier Godin. Ses apports à la philosophie et aux sciences sociales en général, nous tenterons de les évaluer vendredi en nous penchant sur l'héritage de John Dewey, et ce sera avec Carole Gaillet et Pierre Steiner. Mais c'est d'abord de la nature profondément politique de quasiment tous ses écrits, l'engagement profond dont il a témoigné toute sa vie dont nous allons aujourd'hui parler avec Joël Zask pour commencer cette série qui se donne pour objectif de montrer combien, au moment où la mutation numérique transforme profondément nos sociétés, au moment où les institutions démocratiques apparaissent trop découplées des sociétés civiles et donc particulièrement fragile, au moment où nous réalisons si tardivement notre condition anthropocène, combien donc John Dewey mérite d'être lu et relu. Bonjour Joël Zask, vous nous entendez ?
Oui, je vous entends bien.
Bonjour, vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université Aix-Marseille. Vous avez traduit en français quelques ouvrages de John Dewey et de nombreux textes. Le dernier ensemble de textes apparu sous le titre « Écrit politique », vous l'avez traduit avec Jean-Pierre Cometti. Il a paru en 2018 dans la bibliothèque de philosophie Gallimard. C'est là aussi que d'autres textes que vous aviez traduits de lui ont paru. Vous avez consacré à son travail votre thèse de doctorat. Vous avez sans cesse eu recours à Dewey pour continuer à travailler. Et en lui étant fidèle, si j'ose dire, en vous attelant à des problèmes nouveaux, des problèmes que par définition il ne pouvait pas connaître. C'est peut-être ça d'ailleurs hérité de John Dewey, Joël Zask.
En effet, ce qui m'a beaucoup intéressée en découvrant ce philosophe il y a déjà assez longtemps, une bonne vingtaine d'années, c'était le lien très fort qu'il a établi entre les problèmes sociaux et les solutions politiques. C'est-à-dire que le social et le politique ne sont pas découplés. Il y a une dimension politique dans la vie sociale, il y a une dimension sociale dans la vie politique. Et ça m'a vraiment portée vers finalement des horizons très différents de ceux auxquels invitaient soit les perspectives qui gommaient finalement la distinction entre social et politique au détriment du public et qui confiaient finalement le gouvernement à quelques experts détachés finalement des problèmes sociaux dont sont issus les problèmes publics. Et puis à l'opposé, évidemment, il y avait l'ensemble comment dire, de tous ceux qui prétendaient que les idées politiques étaient engrangées, en quelque sorte, et déterminées par des relations sociales, et donc n'avaient aucune indépendance par rapport à ça. Donc moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, je crois que c'est une caractéristique très forte de cette œuvre, c'est justement comment penser politiquement le social, comment penser socialement la politique. Et là, il y a quelque chose de très frais, de très nouveau, et je pense toujours d'extrêmement éclairant pour les problèmes qu'on vit aujourd'hui.
Penser par exemple,
l'écologie,
voilà, j'allais le dire, Joëlzas, penser par exemple la nouvelle catastrophe écologique, c'est le sous-titre du livre que vous avez publié récemment, Quand la forêt brûle, un livre qui vient de recevoir d'ailleurs le prix Pétrarque de l'essai France Culture en ce mois de juillet, qui est un bon exemple de la façon dont on peut s'inscrire au fond dans cette tradition ouverte par Douy pour la philosophie. Peut-être, avant de revenir sur ses écrits politiques, vous pourriez nous dire, même si je sais que c'est une vaste question, comment appréhender la figure de Douy. Il faut bien se rendre compte que c'est un siècle, au fond. Il a vécu 92 ans, à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Il est né quelques années tout juste avant la guerre civile américaine. Il est mort quelques années tout juste avant la guerre du Vietnam. Ça donne une idée un peu de ces années qu'il a vécues. Et ce contexte historique, d'ailleurs, va jouer un rôle très important dans son œuvre.
Oui, et d'autant plus qu'il prévient en quelque sorte ses lecteurs qui pourraient lui reprocher une certaine inconstance. Il les prévient de ce que finalement son expérience à lui en tant que philosophe et en tant que personne représente plus de la moitié de l'histoire des États-Unis. Et ça, je crois que c'est effectivement à prendre en considération. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles il a destiné la philosophie, comme il disait, à réfléchir et éventuellement amender les problèmes des hommes, était le fait qu'il était plongé dans un chaos en quelque sorte historique et dans un ensemble d'événements qui étaient vraiment irréductibles les uns aux autres et dans lesquels finalement perçaient à la fois les conséquences de choix qui étaient faits par des gens en chair et en os et une mise en défaut d'une logique quelconque qu'aurait été la logique de l'histoire ou la logique de la nature et choses de ce genre. Donc je crois que c'est à des idéologisations finalement du progrès, de l'évolution, de l'adaptation, vient aussi de ce qu'il a traversé tellement d'époques différentes. Mais ce qui est frappant chez John Dewey, je pense, c'est ce que Robert Westbrook a très bien mis en évidence dans son livre John Dewey et la démocratie américaine, qui est un livre majeur, c'est qu'il est toujours resté fidèle à son principe que la démocratie, à laquelle il était très fortement attaché, il faudra revenir sur ce mot, ne peut être sauvée, renforcée que par des moyens démocratiques. Et ça, voilà, là, il n'a jamais dérogé à ce principe, qui n'est pas une règle, mais qui est vraiment un principe qu'on peut décliner, quels que soient les problèmes qu'on va examiner, qu'il s'agisse d'art, de science, de valeurs, de politique ou de société.
Toute question qu'on aura l'occasion d'aborder au cours de cette semaine, à travers les différentes facettes de l'œuvre de Douy, qui à la fois part dans de nombreuses directions et en même temps est d'une grande cohérence. Alors, partons de ce mot, puisque vous le prononciez à l'instant, Joëlzas, que ce mot de démocratie, pour peut-être préciser l'acception qu'en avait Douy, qui est assez éloignée, je dirais, des conceptions formelles de la démocratie, celles qu'on retrouve dans les manuels de droit constitutionnel, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un mot qui revient beaucoup et qui est présent dans dans de nombreux titres de ses ouvrages. Il y a un petit texte de 39 qui est un peu une espèce de déclaration de principe qui s'appelle « La démocratie, une tâche à accomplir », une tâche qui se tient devant nous en quelque sorte, et qui vraiment exprime en condensé un certain nombre de convictions de John Dewey. Et sa conviction, je crois, la plus tenace, et qu'il tient de toute une tradition d'ailleurs, qui le précède largement, et notamment de Jefferson, c'est que la démocratie n'est pas réductible à un régime politique, mais que la démocratie, au contraire, est à la fois un ensemble de lois et un ensemble de mœurs, pour parler comme Montesquieu, ou plus exactement que les lois démocratiques, les règles, les principes, les institutions démocratiques ne le restent réellement et ne perdurent que dans la mesure où ils se fondent sur des habitudes démocratiques qui sont répandues dans toute la société, dans tous ses recoins, mais même à l'église, au travail. Donc on est très loin, par exemple, du système ou de la vision kantienne qui recommande que le soldat obéisse, mais que le citoyen délibère librement, ou que le travailleur fasse ce qu'on lui demande, mais qu'en tant que citoyen, il fasse un usage libre de sa raison individuelle. Non, on n'est pas du tout dans cette configuration avec John Dewey. Si ça se passe de manière autoritaire, despotique, alarmante, inégalitaire, dans la famille, à l'école, à l'usine ou au champ, les lois démocratiques elles-mêmes perdront complètement de leur substance et finalement s'amenuiseront au point de disparaître, ce qui livrera le régime finalement à des forces contraires et à d'autres régimes. Donc c'est cette culturalisation, si on peut dire, de l'idéal démocratique est quelque chose de... C'est un peu la marque de fabrique aussi de John Dewey, en tout cas quelque chose, moi, qui m'a énormément touchée et intéressée. Et je dois dire que mon propre travail s'est beaucoup concentré, bien sûr, sur les moyens d'identifier, finalement, les ingrédients d'une culture démocratique et de la renforcer, plus que sur une analyse des institutions. Mais cela dit...
Joël Zask, on vous a perdu. On a perdu la connexion. On va essayer de vous retrouver pour essayer de mieux. Oui, je crois que vous êtes à nouveau en ligne.
Oui. Ouais.
Donc, cela dit, vous disiez les institutions, ils s'y intéressent malgré tout.
Vous m'entendez là ?
On vous entend très bien.
Oui, voilà, j'ai eu un petit problème.
Vous pouvez continuer, oui, les institutions, vous disiez.
Voilà, il s'intéresse malgré tout aux institutions, mais il en fait... Vous m'entendez ?
Oui. Allez-y.
Oui, pardon. Oui, il s'y intéresse, mais ce qui me semble intéressant, c'est qu'il les considère vraiment comme des moyens et non comme des fins. C'est-à-dire que les institutions politiques, et y compris d'ailleurs, il y a une phrase dans Le Public et ses problèmes, un texte de 1927 qui est assez étonnant et qui dit que même les droits de l'homme et du citoyen sont évidemment sont intrinsèquement précieux, mais malgré tout, il faut les considérer comme des moyens, et jusque-là, les moyens qui sont avérés les plus utiles et les plus efficaces de la démocratie politique, mais qu'il ne faudrait pas pour autant les sacraliser et les considérer... comme gravé dans le marbre, quoi. Voilà. Donc, ce qui lui semble toujours le plus important, c'est vraiment la fabrique des mœurs démocratiques.
On vous entend à nouveau.
Des valeurs de l'individualité et autour des valeurs du vivre ensemble, de la communauté.
Est-ce qu'on peut dire que c'est au fond là la preuve...
Allô ?
Oui, est-ce qu'on peut dire que c'est au fond la preuve de la façon dont cette philosophie s'inscrit dans ce courant pragmatiste, dont l'une des caractéristiques est toujours de s'intéresser d'abord et avant tout aux conséquences des choses ? Joël Zask.
Oui, alors de fait, les principes, les lois, les règles, les concepts, vous m'entendez ?
Oui, allez-y, allô ? Allez-y, il y a un petit décalage, mais allez-y, continuez.
Ah, il y a vraiment un problème là.
Continuez.
Oui ? Bon, d'accord. oui, effectivement, on peut concevoir, et là il insiste aussi bien dans sa logique que dans sa politique et sa morale, il faut concevoir toutes nos croyances au sens de Peirce, comme des hypothèses finalement, comme des théories, comme des idées. Et les idées, ne dévoilent leur potentiel d'action que à travers les conséquences qu'elles produisent lorsque nous agissons sous leur conduite. Et finalement, ce qui fait la teneur, la qualité, la beauté, la véracité, l'acceptabilité d'une idée, c'est, la nature des conséquences de ces idées lorsqu'on agit sur leur conduite pour une action consécutive, pour notre avenir, pour nos perspectives du futur, pour notre vivre ensemble, pour l'accomplissement de notre individualité, pour notre apprentissage, etc., etc. Donc les idées ne sont jamais intrinsèquement valables indépendamment des effets qu'elles produisent. Et ce que je dis des idées pourrait l'être aussi, bien sûr, des concepts, des valeurs, des normes, et également, des déclarations des droits, etc., etc. Donc, finalement, cette inscription transformation de toutes nos croyances dans un flux dans lequel il y a à la fois de l'assertion, de l'exploration, comme le disait Carl Poliani, et en même temps des vérifications communes, de la projection, toutes sortes de confirmations qui viennent par l'intermédiaire des méthodes qui nous permettent de comparer nos idées, de les féconder les unes avec les autres, d'entrer aussi dans des controverses et de vérifier auprès des autres nos idées. Tout ça contribue véritablement à l'histoire humaine et forme sa culture. Mais cette culture qui considère les idées comme des hypothèses est évidemment complètement antagoniste par rapport à une culture dans laquelle l'idée est un dogme, l'idée est un absolu, l'idée n'est pas discutable, l'idée est plus forte que le fait, l'idée échappe à la vérification si les faits sont faux par rapport à la théorie, c'est parce que finalement les faits doivent être modifiés. Enfin voilà, ce genre de doctrine qu'il a combattu politiquement, mais également dans ses éthiques et sa théorie de la connaissance. Donc ça, c'est très fort, effectivement, ce conséquentialisme est au cœur de la philosophie de Dewey. C'est d'ailleurs, on parle souvent d'instrumentalisme, de pragmatisme, évidemment, qui est un peu le chapeau sous lequel on va ranger ces différentes philosophies qui accordent justement un statut d'hypothèse aux idées en général. Mais chez Dewey, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'il a utilisé le terme d'expérimentalisme. Il dit finalement, mon expérimentalisme va plus loin que n'importe quel isme. Voilà, c'était une phrase qu'il a écrite à plusieurs reprises. C'était expérimentalisme véritable et celui grâce auquel, certes, les faits dépendent de nos idées directrices, mais en même temps, certains faits, une fois qu'ils sont construits, opérants et considérés, ont le pouvoir de détruire nos idées préalables, ou en tout cas de les amender, ou de les porter à notre conscience, de manière à ce qu'on les vérifie, de manière à ce qu'on les, éventuellement, qu'on les transforme.
Il y a un autre isme qu'on pourrait ajouter, c'est pluralisme, tant c'est important dans la pensée de Dewey, et c'est aussi l'un des traits de cette philosophie américaine. Avant de revenir à la question de la démocratie radicale pour Dewey, de cette nature politique de cette philosophie, je voudrais qu'on écoute le seul, à ma connaissance, le seul document sonore dont on dispose, le seul enregistrement de la voix de John Dewey. Ça donne une idée aussi de ces moments historiques qu'il a vécu. On le disait, peu de temps après sa naissance, c'est la guerre civile américaine. Il aura vécu la Première Guerre mondiale, la crise de 1929 et la Grande Dépression qui a suivi, la montée des totalitarismes en Europe, la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima. Il meurt juste avant la guerre du Vietnam. Et cette parole enregistrée à l'époque, le 7 décembre 1941, sans doute la date vous dit-elle quelque chose, elle a été enregistrée quelques heures seulement après l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor, moment historique très important dans l'histoire de la nation américaine. Et John Dewey réagit dans une conférence immédiatement à ce moment avec des propos sur la philosophie et la guerre. Je propose d'écouter la voix de John Dewey.
Philosophie, to some extent, even those that seem to be very remote and abstract, does something to make human beings more aware of what they are doing and what they're trying to do, what they're trying to undo. We'll be right back.
Émouvant, Joël Zask, d'entendre la voix de John Dewey nous rappeler le caractère éminemment pratique de la philosophie.
Effectivement, je crois que le génie de John Dewey était de faire de la grande philosophie tout en l'utilisant en quelque sorte, ou la destinant à la reformation d'un public et on a, disons, un dispositif pour, comme je le disais au départ, régler les problèmes des hommes et en même temps les aider à, y compris lui-même d'ailleurs, qui ne s'excluait pas du tout de ce public, à faire face à la grande société qui était susceptible déjà à l'époque, bien sûr, de les dévorer, qui avait commencé à le faire d'ailleurs depuis une bonne trentaine d'années.
Je rappelais au début de l'émission que Dewey est né donc l'année de la parution du grand livre de Charles Darwin, L'Origine des espèces. Ça aussi, ça inscrit Dewey comme un contemporain, directement héritier d'un texte de son temps, d'un texte considérable. Darwin va être une influence importante pour lui, mais à la différence de certains, et notamment de Spencer, il n'en fera pas une lecture organiciste, Joël Zask.
Oui, Darwin est, disons, pour John Dewey, l'instigateur d'une nouvelle logique. Et c'est cette logique qu'il voudrait appliquer à la pensée du social et d'une manière générale aux sciences sociales. Selon lui, ce que permet d'introduire en philosophie Darwin, et c'est ce à quoi il va s'atteler, c'est la figure qu'on pourrait appeler de l'interaction, c'est-à-dire ou plus exactement une transaction, c'est-à-dire une relation plus qu'active, une relation déterminante entre des organismes et leur environnement. Et la notion d'environnement telle qu'il la prélève chez Darwin et qui va se répercuter dans toute son œuvre est une notion éminemment écologique. Je dirais que c'est une notion avec laquelle nous sommes entrés en familiarité depuis que nous nous sommes familiarisés avec l'écologie. L'environnement et l'organisme sont finalement deux aspects d'une même phase, deux moments d'un même processus, et on ne peut pas penser l'un sans l'autre. C'est-à-dire que ce qu'est l'individu et l'ensemble des activités que son environnement lui rend possible, et en même temps, à partir du moment où un organisme agit, que ce soit un organisme vivant ou un humain, peu importe, à partir du moment où cet organisme agit, il transforme son environnement. Autrement dit, l'idée de transaction, c'est cette logique-là qui est chez Darwin, l'idée de transaction interdit de penser des substances éternelles, en quelque sorte, ou toutes faites, comme c'est un terme qu'on rencontre beaucoup dans la philosophie pragmatique. Il n'y a rien de tout fait. Les individus ne sont pas nés individus et le monde n'est pas intangible. Et donc, la connaissance, voilà ce qui est l'apport de Darwin pour la philosophie selon Dewey, la connaissance consiste non pas à imiter les objets, non pas à s'efforcer vers des objets qui, quant à eux, seraient donnés une fois pour toutes, non pas dupliquer ces objets ou se faire le spectateur ou rendre l'esprit spectateur de ces objets, mais d'une certaine façon, les constituer, aller vers la réalité de manière à ce que la pensée et l'objet, ou plus exactement la réalité, forme un objet, forme un fait finalement. Et cette adaptation mutuelle entre la factualité et la pensée, ben c'est précisément, je dirais, le cœur de l'écologie, d'une certaine façon. Et le cœur, en tout cas, du darwinisme tel que John Dewey va le lire et l'importer. Donc là, ça n'a rien à voir avec, effectivement, l'évolutionnisme tel qu'il a été transformé par Spencer, par exemple, et par, finalement, la plupart des lecteurs de Darwin, ou une grande quantité, hors le champ des sciences, bien sûr, puisque... justement, la notion d'évolution qui va s'imposer est unilatérale. C'est-à-dire qu'on considère que les organismes s'adaptent à un environnement qui, quant à lui, est immuable. Et donc, l'adaptation est un processus relativement passif qui consiste à se conformer aux conditions qui sont dictées par un environnement intangible. Or, c'est pas du tout ça. Il y a une phrase de John Dewey qui est très frappante, qui est, quand on en reconstruction en philosophie, qui est même une prairie, c'est un petit coquillage, transforme son environnement. Et donc, il n'y a aucun être qui, à partir du moment où il est en activité, laisserait son environnement complètement inchangé. Et bien sûr, on peut penser à la société comme un environnement. Et la société est un ensemble d'interactions ou de transactions. Ça n'est certainement pas une substance immuable à laquelle les individus devraient s'adapter pour en faire partie. Mais on ne peut pas dire non plus que une société est une collection d'individus isolés les uns des autres.
On voit bien là comment, au fond, cette philosophie sera le socle de la sociologie interactionniste qui va se développer, notamment à Chicago, université par laquelle John Dewey sera brièvement passé. On voit bien plus largement, je dirais, et on n'a pas le temps de parler aujourd'hui de libéralisme, je pense qu'on le fera demain avec Mathias Girel, mais on voit bien comment la philosophie de Dewey se caractérise par un refus obstiné des dualismes qui sont souvent des manières d'enfermer les débats dans des dichotomies qui n'ont guère de sens, Joël Zask.
Et en particulier la dichotomie entre l'individu et la société. Il va préférer d'ailleurs des adjectifs assez substantifs. Il va parler de l'individuel, de l'individualisation, donc un processus, et du social ou de la socialisation ou la sociétation. Bon, enfin, ce n'est pas exactement l'équivalent en anglais, mais en tout cas, ce qui l'intéresse, c'est le processus. Et encore une fois, pour montrer comment individuel et social sont deux phases d'une même activité. Sans socialisation, il n'y a pas d'individualité humaine, mais en même temps, sans constitution de cette individualité, il n'y a pas de société spécifiquement humaine. Il n'y a que des agrégats, des troupeaux, des associations statistiques, etc. etc. Donc voilà la question qu'il va poser, qui est très forte. Quelle est finalement, comment doit-on penser la société de manière à ce qu'il en provienne une société, une socialisation spécifiquement humaine? Et qu'est-ce qui distingue une assemblée d'hommes, ou qu'est-ce qui devrait distinguer une assemblée d'humains d'une assemblée d'électrons, d'une assemblée de moutons, d'une assemblée de frelons, et choses de ce genre? Donc, bien sûr, le dualisme là qui est en jeu et qui continue à nous travailler d'une certaine façon, c'est le dualisme entre l'individu et la société, qui donne lieu à deux solutions majeur à son époque et qui continue malheureusement, on peut dire, de s'imposer, à savoir d'un côté un collectivisme, l'individu prétendument se réaliserait à travers l'adhésion à des finalités incarnées dans le groupe dont il n'est pas l'auteur mais auquel finalement il doit faire allégeance en sacrifiant son individualité. Donc là on a des milliards de cas de figure, mais c'est vraiment logé au cœur du totalitarisme que John Dewey va commencer à critiquer. Et puis de l'autre, l'individualisme libéral, à savoir que c'est finalement la société n'est jamais que le résultat du libre développement des individualités atomisées qui se trouvent être reliées par des mécanismes sur lesquels ils n'ont pas véritablement de prise, mais dont la résultante est plutôt bénéfique au bien-être général. Donc c'est entre individualisme, organicisme, collectivisme, si vous voulez, il y a, je dirais, la société démocratique telle que John Dewey la pense.
Et même, puisqu'on parlait de politique dans ce premier volet de l'émission, le socialisme démocratique, puisque c'est cette étiquette au fond politique qu'a choisi John Dewey à de multiples reprises, et notamment de retour du RSS avec un regard très critique pour le communisme, regard aussi critique à l'égard du néolibéralisme. On va devoir s'arrêter là, malheureusement, Joël Zask. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier volet. On continue d'avoir raison demain avec John Dewey, et ce sera avec le philosophe Mathias Girel. Nous parlerons peut-être de libéralisme et certainement d'absolutisme, certainement de quête de certitude. À demain donc.
France Culture, l'esprit d'ouverture.